Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 19. La corvette qui venait de sauver quelques-uns des naufragés du brick le Glorieux était un de ces navires de guerre que l'amirauté française envoyait pour la protection de nos pêcheries de Terre-Neuve. De temps à autre, ces bâtiments faisaient une pointe jusque dans la mer des Antilles, à l'effet de donner la chasse aux pirates qui infestaient les côtes de nos colonies. Dans ce cas, les navires de guerre passaient tous au retour dans le golfe du Mexique et faisaient escale à la Nouvelle-Orléans pour y prendre le courrier du gouverneur de la Louisiane avant de cingler vers la France. La corvette en question effectuait précisément un de ces voyages lorsqu'elle avait aperçu les signaux de détresse des naufragés. Elle n'avait donc pas à se détourner de sa route pour mettre ces derniers à destination. Avant de continuer sa marche vers le golfe du Mexique, le capitaine de frégate, commandant la corvette, voulut naviguer pendant quelques jours dans les parages où la chaloupe avait été rencontrée, dans l'espoir de retrouver les deux autres embarcations. Cette généreuse tentative demeura malheureusement stérile et force fut au commandant de se décider à faire voile pour la Louisiane. La traversée s'accomplit dans les meilleures conditions pour les naufragés qui, comme on le suppose bien, avaient besoin de se remettre des fatigues et des émotions subies. Le lieutenant Douvel employa ses loisirs forcés à écrire une relation des événements qui s'étaient accomplis à bord du brick le Glorieux depuis le départ du Havre jusqu'au moment où il avait fallu abandonner le navire, devenu la proie des flammes. Monsieur Douvel, en faisant l'éloge des officiers et de l'équipage, n'eut garde de passer sous silence la conduite de la prisonnière inscrite sous le nom d'Henriette Gérard. Il la signala dans sa relation écrite comme ayant mérité une récompense et il la recommandait à la bienveillance du gouverneur de la Louisiane. Disons aussi que le lieutenant Douvel, en sauvant les papiers du bord, y avait joint la lettre que le lieutenant général de police avait adressée au gouverneur. Nous savons déjà que cette missive concernait la prisonnière Henriette Gérard, que le chef de la police française recommandait à l'indulgence du haut personnage, arbitre suprême du sort des condamnés qu'on exilait de France. Monsieur de Limière, après le mouvement d'emportement et de colère qui avait été si fatal à Henriette, avait bien dû s'avouer à lui-même que cette jeune fille, après tout, n'était pas tellement coupable, tellement dégradée, qu'elle mérita de subir le rigoureux sort infligé aux filles perdues, condamnées à l'exil. Aussi avait-il eu quelque compassion pour cette malheureuse. Le gouverneur trouva dans le rapport verbal que lui fit le commandant du Glorieux un motif de plus pour accorder à la jeune prisonnière des faveurs toutes spéciales. Mais il négligea de dire au lieutenant Douvel que la jeune personne avait déjà auprès de lui un protecteur puissant. En sorte que Charles Douvel ignora le contenu de la lettre adressée par le lieutenant de police au gouverneur, lettre qu'il avait lui-même, en débarquant, remise à celui-ci. Le récit du naufrage du brick le Glorieux avait défrayé pendant quelque temps toutes les conversations, et le gentilhomme qui exerçait le commandement des forces de terre et de mer, ainsi que le gouvernement de toutes les possessions françaises de la Louisiane, s'intéressa naturellement au lieutenant Douvel. Aussi, proposa-t-il au jeune officier, après quelque temps de séjour, de le faire rapatrier sur la corvette qui, ayant fait le tour de nos possessions dans les petites Antilles, devait repasser par la Nouvelle-Orléans avant de retourner en France. Tout d'abord, Charles Douvel parut hésiter. Il demanda la permission de réfléchir. Le marquis mit la chose sur le compte de l'extrême fatigue qu'éprouvait le marin et il estima que celui-ci ne serait pas fâché de prendre un repos de quelques mois. En réalité, l'ex-commandant du Glorieux avait maintenant, ainsi qu'on le verra plus tard, un motif impérieux pour ne pas quitter la Nouvelle-Orléans. Pendant les premiers jours, il se tint à l'écart des officiers de la garnison et l'on attribua au chagrin qu'il éprouvait de la perte de son navire le besoin de solitude qu'il affectait. Charles Douvel ne manquait jamais de se rendre à l'invitation du gouverneur lorsque celui-ci prétextait d'un renseignement à lui demander pour l'avoir soit à déjeuner, soit à dîner. Le lieutenant profitait de toutes ces circonstances pour s'attirer les bonnes grâces du marquis. C'est ainsi qu'il fut reçu avec une certaine intimité dans la famille du gouverneur. Les événements douloureux dont il avait été victime lui avaient acquis la sympathie de cette famille, et le nom d'Henriette Gérard, dont il vantait le courage et le dévouement, revenait bien des fois dans ses récits. Une circonstance allait le mettre de nouveau en présence de Marianne. Le gouverneur, ayant manifesté l'intention de passer en revue les condamnés qu'on lui avait envoyés de France, le lieutenant Douvelle fut prié d'assister à cette revue, afin de constater quelles étaient celles des exilés composant le convoi qui manqueraient à l'appel par suite de la disparition des deux chaloupes, disparition qui avait eu lieu, on s'en souvient, pendant la tempête que l'on avait subie après la perte du Glorieux. Cette revue n'était habituellement pour le gouverneur qu'une simple formalité qu'il évitait de prolonger, se déchargeant sur l'officier chargé spécialement de la surveillance des exilés, du soin de répartir celle-ci dans les différents services du pénitencier. C'était, pour ainsi dire, une besogne de commandeur, car les malheureuses condamnées étaient menées comme de véritables nègres. La plupart de ces misérables recrues, envoyées de France pour les travaux obligatoires, avaient grand-peine à se faire au climat si nouveau pour elles. Presque aussitôt débarquées, elles entraient d'urgence à l'infirmerie, et bientôt elles étaient enlevées en grand nombre, soit par le vomito negro, soit par la fièvre jaune. Au moment où, pendant l'appel nominal, Marianne dut se présenter à son tour devant le gouverneur, celui-ci lui fit signe de s'arrêter et ordonna au sergent, qui conduisait les prisonnières, de la faire sortir des rangs. Entendant donner cet ordre, la pauvre femme avait tressailli. Elle s'imaginait de nouveau qu'on avait découvert qu'elle s'était substituée à une autre, et elle pensait que son dévouement pour Henriette allait demeurer stérile. Ce fut donc en pâlissant et le front courbé qu'elle vint se placer devant le gouverneur, qui lui demanda.
« C'est bien vous qui vous nommez Henriette Gérard ?»«
Oui, monseigneur, » balbutia Marianne sans oser lever les yeux. « Je sais pour quel motif vous avez été renvoyée de France. » La prisonnière se sentit frissonner, mais elle fit un effort pour dissimuler son trouble. « La faute dont vous vous êtes rendue coupable, » reprit le gouverneur après un court silence, « a été jugée avec la sévérité qui convenait. Mais je connais votre courageuse conduite à bord du Glorieux, et je ferai droit, avec plaisir, aux recommandations qui m'ont été adressées en votre faveur. Vous ne subirez pas, enfin, les rudes travaux qui attendent vos compagnes d'exil. » Marianne ne put se défendre d'un mouvement de surprise en apprenant qu'une protection inconnue s'étendait sur elle. Puis, jetant un regard de compassion sur les malheureuses vouées à une vie de travail et à une discipline rigoureuse, « Monseigneur, dit-elle, si vous daignez le permettre, je partagerai le sort de celles qui, comme moi, ont mérité un châtiment. » À cette étrange réponse, le gouverneur échangea un regard d'étonnement avec le commandant du pénitencier et lui adressa quelques paroles à voix basse. Persuadée que la prière qu'elle avait adressée au gouverneur avait été favorablement accueillie, Marianne ne douta pas que dès le lendemain, elle partagerait les travaux des autres condamnés. Mais en rentrant au pénitencier, elle fut mandée dans le cabinet du surveillant en chef. « Vous êtes désigné, lui dit l'officier, pour un emploi dans l'un des services suivants du pénitencier. La lingerie ou l'infirmerie? À quoi êtes-vous bonne? »
« J'obéirai aux ordres qu'on me donnera, répondit avec simplicité Marianne.
« C'est-à-dire que vous n'avez pas de préférence? Puis il ajouta. « Que faisiez-vous à Paris? Quel était votre état? »
Marianne eut un moment d'hésitation. Mais se souvenant qu'Henriette avait comme elle travaillé à la couture, elle répondit « J'étais couturière. »
« Alors, en vous employant la lingerie, tout sera pour le mieux. »
Et sans attendre la réponse, l'officier avait pris la plume et s'apprêtait à écrire l'ordre de recevoir la prisonnière dans le service de la lingerie. Mais Marianne s'avança respectueusement et s'inclinant. « S'il plaisait à monsieur le commandant, murmura-t-elle, de me permettre... »
« Quoi? De refuser cette faveur? C'est ce que m'avait annoncé monsieur le gouverneur. Vous avez de singulières idées, paraît-il. C'est la première fois que nous voyons ici une détenue demander à travailler le plus durement possible.
« Eh bien, dit en ricanant l'officier,
bon gré mal gré, il vous faudra vous soumettre à notre volonté de vous épargner des peines et des fatigues. »
Marianne s'arma de courage pour répondre. « Puisque monseigneur veut bien m'accorder le choix du service dans lequel je puis être employée, j'oserais supplier, monsieur le commandant, de permettre que je sois admise parmi les infirmières. »
« Ah ben,
s'écria l'officier. « Mais vous ignorez donc que c'est là un emploi difficile et parfois dangereux ?»«
Je ferai tous mes efforts pour me rendre utile. Je suis prête à supporter toutes les fatigues. Quant aux dangers quels qu'ils soient, je les affronterai sans hésiter, et je m'estimerai heureuse si je puis apporter un peu de soulagement à ceux qui souffrent. »
Le commandant regarda avec étonnement cette jeune femme qui parlait comme eût pu le faire une sœur de charité. Et il signa l'ordre de recevoir la nommée Henriette Gérard en qualité d'aide infirmière. Grâce au courage, à l'abnégation et au dévouement que déployait Marianne, on constata bientôt les services très réels qu'elle rendait dans son nouvel emploi. Ce fut, parmi les malades, un concert de louanges à l'adresse de cette femme infatigable que l'on trouvait toujours au chevet de ceux qui étaient le plus dangereusement atteints. La chose arriva aux oreilles du gouverneur, qui, pendant une inspection générale, saisit cette occasion de féliciter publiquement Marianne. Ce jour-là encore, le lieutenant Douvel accompagnait le marquis. Depuis quelque temps, un changement notable s'était opéré dans la situation de l'ex-commandant du brick naufragé. Le gouverneur avait fait parvenir en France, à l'amirauté, une demande de congé pour l'officier de marine. Et en attendant la réponse, il avait voulu s'attacher M. Douvel en qualité de secrétaire, et cela avec d'autant plus de plaisir que le lieutenant s'était offert pour donner des répétitions de mathématiques aux deux jeunes fils du gouverneur. Il dessinait avec talent, et Mademoiselle Yvonne, la fille du gouverneur, était toute joyeuse lorsqu'il lui offrait quelques gouaches ou quelques aquarelles destinées à son album. Le lieutenant était entré dans l'intimité de la famille du gouverneur, et celui-ci le considérait maintenant bien plus comme un ami que comme un employé. 20 fois, M. Douvel avait fait naître l'occasion de parler de Marianne devant la marquise, cherchant à attirer sur sa protégée la bienveillance de la grande dame. Mademoiselle Yvonne, de son côté, n'avait pas tardé à s'intéresser à la captive, dont on disait si grand bien. La marquise et sa fille se laissèrent facilement impressionner par tout ce qui leur fut raconté de la conduite de la jeune exilée. Charles Douvel acquit dès lors la certitude d'avoir rendu un important service à Marianne. La marquise s'informa auprès de son mari du motif qui avait fait condamner à l'exil une jeune fille dont on vantait si haut le courage et le dévouement. Le gouverneur fit part à la marquise des renseignements particuliers recueillis sur le compte de Marianne, puis il mit sous ses yeux la lettre que lui avait adressée le comte de Lignières pour lui recommander la prisonnière. La marquise la parcourut et manifesta une pitié profonde. Le gouverneur lui-même trouvait un peu bien excessif la condamnation infligée à la jeune femme. « Comment ? » s'écria la marquise. « C'est pour avoir cru à l'amour sincère et à la parole d'un gentilhomme que cette malheureuse a été expulsée de France comme une criminelle ?»«
Ce gentilhomme, dit le gouverneur, se trouvait être, par malheur, pour la jeune femme, le neveu du lieutenant de police.
Soit, mais cette lettre, en vous recommandant d'adoucir, pour la prisonnière, les rigueurs disciplinaires du pénitencier, ne détermine pas le degré de bienveillance auquel vous devez vous arrêter.
C'est vrai.
Eh bien, je veux, à mon tour, intervenir en faveur de la pauvre détenue. Et j'espère, mon ami, que ma requête sera bien accueillie par vous.
« Or, continua la marquise, je désirerais que cette intéressante détenue fût dispensée du service qu'elle a choisi, de préférence aux autres travaux du pénitencier. »«
Bon, répondit en souriant le gouverneur, n'allez-vous pas me demander, pour elle, la vie tout à fait libre ?»«
Pourquoi pas ?»«
Ah, je reconnais bien là votre cœur. Pour le prétendu crime, ou plutôt pour la faute qu'on impute à cette malheureuse fille, l'exil n'est-il pas une peine suffisante ? Répliqua la marquise. Et voulez-vous condamner cette infortunée à l'éternelle réclusion parce qu'elle a eu confiance en la parole d'un gentilhomme ?
Non, mon ami, vous permettrez que je plaide ici sa cause.
Et que vous la gagniez, marquise, car je me soumets d'avance au désir que vous exprimerez.
Je désire, alors, que vous me permettiez de voir cette jeune femme. Je la recevrai.
Ici ?
Oui, mon ami, ici, dans votre cabinet. Et cela, en attendant mieux.
Le jour même, le gouverneur donnait des ordres pour que la nommée Henriette Gérard fût amenée à l'habitation. Ce fut Charles Douvel qu'il chargea du soin d'accompagner la prisonnière. Présentée à la marquise, Marianne s'attira aisément la bienveillance de la grande dame, déjà prévenue en sa faveur, et Mademoiselle Yvonne s'intéressa très vivement à celle qui lui paraissait si peu mériter le châtiment qu'elle était condamnée à subir pendant toute sa vie.
« Mon père ne permettra pas, lui dit-elle, que vous demeuriez plus longtemps au milieu de véritables coupables. »
Et s'adressant au gouverneur, « N'est-il pas vrai, mon père, que vous voudrez bien m'autoriser à prendre mademoiselle en qualité de couturière ?»«
Je le permettrai, mon enfant, si la marquise y consent. »
« Je me serais jointe à Yvonne, si vous aviez hésité, mon ami. Mais du moment que vous consentez, je suis heureuse que ma fille ait pris l'initiative d'une demande qui avait d'avance mon agrément. »
La marquise, s'adressant à la détenue.
« Vous savez coudre, assurément. »«
Oui, madame la marquise. J'étais une bonne ouvrière, autrefois. »
« Vous voyez, mon ami, fit la marquise, tout est pour le mieux. Et voici pour notre protégé un emploi tout trouvé. »
Marianne était à la fois très émue et très troublée par cette bienveillance qui s'adressait évidemment à Henriette Gérard, la jeune fille innocente et vertueuse, et non pas à cette Marianne que Jacques Frochard avait entraînée dans le vice et poussée au vol. Pour la première fois depuis qu'elle s'était substituée à sa compagne de la salpêtrière, elle sentait le poids du mensonge que lui avait dicté sa générosité et sa reconnaissance. Son cœur se serrait à l'idée qu'elle était, elle qui se sentait si coupable, indigne de la bienveillance et de la sympathie qu'on lui témoignait. Et cependant, elle ne pouvait refuser les faveurs dont on voulait la gratifier. Quel motif pourrait-elle alléguer? Dirait-elle la vérité sur son identité? Une pareille révélation de sa part mettrait, comme on le sait déjà, Henriette aux prises avec une situation dangereuse. Le gouverneur ne pourrait se dispenser de prévenir le lieutenant de police, et tout le dévouement que Marianne avait témoigné à Henriette deviendrait stérile. La perspective des dangers que courraient alors les deux orphelines l'épouvantait. Elle se résignerait à tout plutôt que d'exposer ces pures et innocentes créatures qui avaient déjà passé par tant et de si terribles épreuves. Son parti fut donc pris en une seconde. Elle persévérerait dans son généreux mensonge. Elle se résignerait à accepter la protection du gouverneur et de la marquise. Au surplus, on ne lui donnait pas le temps de la réflexion. Yvonne obtenait de son père que, dès le lendemain, la détenue reviendrait demeurer tout à fait à l'habitation. Elle se chargeait de lui donner de l'ouvrage, beaucoup d'ouvrages à faire, persuadée qu'arrivant de Paris, la couturière allait la renseigner sur les modes nouvelles. Ce fut le secrétaire improvisé qui fut chargé de reconduire Marianne à l'infirmerie et de transmettre au chef de service la décision prise par le gouverneur à l'égard de la prisonnière. Charles Douvel se félicitait d'avoir été pour quelque chose dans la faveur qu'obtenait Marianne. Lorsqu'il se trouva seul avec elle sur la route qui conduisait de l'habitation au pénitencier, il entreprit de faire causer la jeune femme qui marchait la tête basse et comme absorbée dans une profonde rêverie. Quel motif le poussait à s'intéresser avec tant d'ardeur à Marianne alors que 100 autres femmes, déportées comme elle, se trouvaient dans le pénitencier sans qu'aucune d'elles eût un instant attiré son attention? À quel sentiment obéissait-il lorsqu'au moment d'entamer la conversation, il se sentait si vivement ému que les paroles expiraient sur ses lèvres? Certes, l'intimité n'était pour rien dans cette hésitation. Son caractère audacieux, sa nature énergique, devait faire repousser bien loin toute supposition de ce genre. Peut-être en ce moment, un mystérieux rapprochement se faisait-il dans son esprit entre cette femme récemment arrivée de France et quelque autre personne qui avait autrefois traversé son existence. La vue de cette condamnée éveillait peut-être en lui un souvenir déjà lointain mais toujours vivace. Quoi qu'il en soit, Charles Douvel, surmontant enfin son hésitation, dit à la détenue. « Vous allez habiter la demeure de monsieur le gouverneur et j'en suis enchantée. On vous donnera sans doute une chambre dans la galerie de bois affectée au logement du personnel de la maison. » Et voulant tirer la prisonnière de la rêverie qui l'absorbait et du silence qu'elle semblait s'imposer, il ajouta « Cette galerie que vous habiterez, ainsi que je l'habite moi-même, a une physionomie particulière. Figurez-vous une succession de petites chambres. Chacune d'elles est pourvue d'une porte donnant sur la galerie et d'une croisée ouvrant sur un jardin entouré d'une palissade toute tapissée de jasmin sauvage. C'est là qu'est ma demeure. J'espère que la vôtre en sera voisine. Vous espérez ? Dit Marianne avec étonnement.
Oui, certes, je serais même enchantée qu'il en soit ainsi, car toutes ces chambres dont je viens de vous parler sont affectées au logement du personnel de l'habitation, c'est-à-dire des employés, des serviteurs, au milieu desquels je suis naturellement tout à fait isolée. Lorsque je vous aurai pour voisine, au contraire, ce triste isolement cessera d'exister pour moi. Et comme Marianne s'obstinait à garder le silence, il ajouta « Mais c'est de moi seule que je m'occupe, sans songer que ce voisinage, dont je me réjouis à l'avance, va peut-être vous déplaire autant qu'il me charme. »«
Me déplaire ?» répondit avec vivacité Marianne.
Puis, se calmant tout à coup, elle ajouta « Vous oubliez, monsieur le commandant, qui vous êtes, et ce que je suis, hélas !»«
Ce que vous êtes ?» s'écria chaleureusement Douvel. « Je le sais à merveille, moi qui vous ai vu à l'œuvre à bord de mon pauvre navire incendié. Vous êtes une belle et vaillante fille dont l'âme est pleine d'énergie, dont le cœur est rempli de charité et de dévouement. Ah, je vous ai bien jugée, allez, quand je vous voyais calme et résignée au milieu du danger, ou luttant avec courage contre l'affolement de vos compagnes. Vous êtes une femme digne d'admiration, de tendresse. Vous êtes...
« Et ce que j'ai été ?» s'écria douloureusement Marianne. « Le savez-vous aussi ?»«
Je le saurai, » se dit à part le lieutenant.
Ce premier tête-à-tête entre ces deux jeunes gens sur la terre d'exil devait être la préface d'un roman d'amour fécond en péripéties émouvantes. Les travaux de couture dont elle était chargée appelaient chaque jour Marianne à l'habitation du gouverneur. Tout d'abord, la marquise l'avait tenue à une certaine distance de sa fille. Puis cette prudence maternelle s'était insensiblement relâchée lorsqu'elle avait vu combien sa protégée s'efforçait d'être respectueuse et de se montrer réservée et discrète quand elle était admise à travailler en compagnie de la marquise et d'Yvonne. Ce maintien si correct et cette assiduité ne pouvaient que prévenir en faveur de Marianne et lui valoir un rapide changement dans sa situation chez le gouverneur. La marquise avait évité d'interroger celle dont on se figurait connaître l'histoire. Au bout de quelques jours cependant, encouragée par la douceur de sa protégée et la reconnaissance qu'elle lui témoignait, elle voulut savoir ce qu'avait été la condamnée, avant la triste aventure dont le dénouement devait être si terrible pour elle. Profitant de ce que le gouverneur avait conduit Yvonne à la cathédrale de la Nouvelle-Orléans, la marquise résolut d'avoir une longue conversation avec Marianne. C'est avec une maternelle sollicitude, avec les paroles les plus encourageantes, qu'elle se mit à la questionner. Interrogée avec cette bienveillance, celle-ci rougissait de se voir forcée de continuer à mentir, alors qu'elle brûlait d'avouer la vérité à la marquise, dut-elle se voir condamnée à subir le sort des autres exilés. Il lui répugnait de tromper ceux qui s'étaient intéressés à elle et qui croyaient, en agissant ainsi, réparer, autant que cela était en leur pouvoir, une criante injustice. Elle s'en voulait d'être condamnée à garder ce secret, et se demandait si elle aurait toujours la force de persévérer dans le rôle qu'elle s'était imposé. Aussi, répondit-elle avec hésitation. La marquise, se trompant sur le sens véritable de cette hésitation, se montra plus pressante et plus bienveillante encore. Marianne se sentit remuée jusqu'au fond de son âme. Elle se disait que toutes ces bonnes paroles s'adressaient à Henriette Gérard, à cette infortunée qui n'avait ouvert son cœur qu'à un amour pur et qui, passionnément adorée, avait eu le courage et la force de résister au violent amour qu'elle avait inspiré. Elle se disait qu'il y avait loin de cette vertueuse créature que frappait si durement le sort à la fille perdue, qui, dans l'aveuglement de sa passion, s'était livrée corps et âme à un misérable. À elle, enfin, qui de lâche qu'elle avait été d'abord, était devenue honteusement coupable. Dans son trouble, elle eut la tentation de détromper celle qui lui prodiguait de consolantes paroles et dont elle entretenait l'erreur par son silence. Elle fut sur le point de tout révéler. Ah, s'il ne lui fut venu en ce moment à l'esprit que, sans aucun doute, la marquise se refuserait à devenir sa complice en lui gardant le secret de ses aveux, si elle n'eût redouté pour cette Henriette qu'elle avait voulu sauver de nouvelles persécutions, elle se serait écriée « Cessez, madame, de me considérer comme une femme digne de votre bienveillance, de votre généreuse pitié. Je ne suis qu'une misérable fille qui s'est honteusement dégradée, perdue, déshonorée. Laissez-moi retourner parmi mes compagnes d'exil. Laissez-moi subir le châtiment que j'ai mérité. » Dans l'impossibilité où elle se trouvait de révéler son secret, Marianne ne répondait que par des larmes
aux conseils et aux consolations que lui donnait la marquise. Et celle-ci, très émue à la vue de cette douleur muette, demeura plus que jamais convaincue qu'elle accomplissait, en protégeant Henriette Gérard, une œuvre charitable et bonne. Et depuis lors, Marianne fut chaque jour admise d'une façon plus intime dans la maison du gouverneur. Chaque jour aussi, Mademoiselle Yvonne se félicitait de ce que son père eût consenti à lui donner Marianne pour couturière. Il y avait bien un peu de calcul dans cette reconnaissance de la jeune fille. Yvonne était fiancée depuis un an à M. Gaston de Saulny, fils unique d'un des plus riches planteurs de la Louisiane. L'immense fortune que Gaston devait hériter un jour avait fait tomber les derniers scrupules de la marquise, qui, trouvant sa fille beaucoup trop jeune, voulait attendre encore quelques années avant de songer à la marier. Toutefois, en agréant la demande du prétendant à la main d'Yvonne, le marquis avait stipulé que le mariage ne s'effectuerait qu'un an plus tard, lorsque la fiancée aurait accompli ses 17 ans. Or, on était arrivé à quelques semaines près, à l'époque fixée, et l'on attendait d'un moment à l'autre le retour du prétendu. Cette nouvelle avait comblé de joie tout le personnel de l'habitation, qui savait que chacun aurait sa part des réjouissances. Mademoiselle Yvonne avait été émerveillée des modèles que lui avait soumis sa couturière. Marianne, on s'en souvient, avait été une des meilleures couturières de Madame Poitevin. Elle arrivait de Paris et pouvait faire connaître à la marquise et à sa fille les dernières créations de la mode. On ne tarda pas à trouver qu'elle travaillait comme une fée. Yvonne, principalement, ne tarissait pas d'éloges sur son compte. Toutefois, malgré la bonne impression qu'avait produite la détenue, la marquise voulut que sa fille l'atteint encore à distance. La fiancée de M. Saulny avait obéi, en y mettant tout le tact voulu et en prenant des précautions pour que la captive ne s'aperçût de rien. Le soir, il arrivait même que lorsque Marianne avait pris son repas avec le personnel, Mademoiselle Yvonne la faisait demander, sous un prétexte quelconque, et lui permettait de se promener avec elle dans le parc. Elle y rencontrait alors M. Douvel, soit que celui-ci fît sur la terrasse la partie d'échecs du marquis, soit que le jeune officier eût été appelé à offrir son bras à la marquise. Il arrivait quelquefois, lorsque Mademoiselle Yvonne avait gardé plus longtemps que d'habitude sa couturière, que celle-ci s'en retournait à sa petite chambre de la galerie de bois, en compagnie de Charles Douvel, car, ainsi que l'avait supposé le lieutenant, Marianne était devenue sa voisine de chambre. Tout d'abord, M. Douvel avait éprouvé une grande joie de ce voisinage. La sympathie que lui avait inspirée la détenue pendant la traversée à bord du Glorieux avait fait depuis de constants progrès. Aussi, en apprenant qu'il aurait souvent l'occasion de se rencontrer avec la jeune femme, M. Douvel avait-il ressenti une impression toute nouvelle. Quelque chose de plus que la sympathie banale, quelque chose de plus aussi que l'intérêt que l'on porte à une malheureuse dont une heure d'égarement a brisé la vie. Était-il épris de cette femme, sans s'être aperçu que le sentiment qu'il éprouvait avait peu à peu envahi son cœur? Charles Douvel se sentit tout honteux à cette supposition d'avoir pu se laisser surprendre par un amour sans issue. Il rejetait, en effet, bien loin la pensée d'abuser du malheur de cette infortunée pour tenter une séduction. La bonne opinion que lui inspirait celle qui, si elle avait commis quelque faute grave, se montrait si résignée, si sincèrement repentante, le retenait dans les limites d'une affection désintéressée. Et cependant, tout en se renfermant dans les plus louables scrupules, il n'eût pas été fâché de s'assurer que la jeune femme ne le considérerait pas tout à fait comme un étranger. La nature humaine a de ces petites vanités qui s'exaspèrent bientôt, aiguillonnées soit par des résistances, soit par l'indifférence qu'elle rencontre. Souvent le cœur, tout d'abord légèrement épris, s'affole, et l'on en vient au déchaînement d'une indomptable passion. Dans le cas de Charles Douvel, la raison dut intervenir à temps pour maintenir l'ardent officier dans les limites de son rôle de protecteur d'une malheureuse condamnée. Il s'ingénia toutefois à faire naître les occasions de prouver à Marianne qu'il ressentait pour elle une réelle sympathie. Pendant les premiers jours de ce voisinage, il y eut bien quelques réticences de part et d'autre pour entamer d'abord et prolonger ensuite la conversation lorsque l'on se trouvait, comme par hasard, chacun la croisée de sa chambre. Mais bientôt, les relations entre les deux voisins devinrent moins imprévues, et bien souvent, l'on s'était attardé à causer, alors que depuis longtemps, tout le personnel de l'habitation dormait. Que se disait-on pendant ces entrevues d'une fenêtre à l'autre? Charles Douvel trouvait toujours quelque aliment nouveau pour la conversation lorsque celle-ci menaçait de cesser parce que Marianne demeurait tout à coup silencieuse. C'était le plus souvent de la France que parlait le lieutenant, oubliant que la pauvre femme qui l'écoutait ne devait plus revoir son pays dont on l'avait chassée. Mais lui ne s'apercevait pas de l'effet qu'il avait produit, ou s'il remarquait une tristesse subite chez la voisine, il la mettait sur le compte de douloureux souvenirs. Quelquefois, Charles Douvel s'enhardissait jusqu'à questionner la détenue sur sa famille et les amis qu'elle avait laissés à Paris. Sachant qu'elle avait fait son apprentissage chez une grande couturière, il cherchait à lui faire avouer par quelle série de circonstances l'ouvrière habile, la jeune fille qui avait aimé le travail, en était arrivée à se voir exilée de France, comme les voleuses et les prostituées. En agissant ainsi, Douvel ne sacrifiait pas uniquement à un besoin de curiosité. Il aurait voulu pouvoir trouver la condamnée moins coupable qu'il n'était en droit de le supposer, étant donné la rigueur du châtiment. Peut-être espérait-il apprendre que la justice s'était trompée et que la peine afflictive que subissait cette sympathique captive avait atteint une innocente. L'attitude si réservée, si humble de la couturière, contrastait d'une façon tellement prononcée avec la tenue ordinaire des autres femmes du pénitencier que l'on pouvait réellement supposer qu'il y avait là une victime bien plus qu'une coupable. Mais au moment de pousser plus avant l'interrogatoire, Douvel était pris d'hésitation. C'est que la jeune femme levait alors sur lui des regards qui semblaient dire « Pourquoi me questionnez-vous ainsi? À quoi vous servirait de savoir la vérité? Ne voyez-vous pas que je comprends très bien ce que vous désirez savoir et que je ne veux pas, je ne peux pas vous répondre ?» Au surplus, qu'espérait-il apprendre? Un passé qui ne pouvait que diminuer la sympathie qu'il éprouvait pour elle? Tout ignorer, au contraire, permettait d'admettre les suppositions les plus favorables à Marianne. Mais tous ces beaux raisonnements s'émoussaient bientôt et dès le lendemain soir, Charles Douvel se sentait plus que jamais pris de l'envie de questionner. Un jour même, poussé sans doute par un sentiment qui maintenant se faisait de plus en plus impérieux dans son cœur, le lieutenant avait attendu Marianne, bien décidé à obtenir d'elle, sinon une confession complète, du moins quelques confidences. La jeune femme avait-elle de son côté pris la résolution de mettre un terme à cette inquisition amicale dont elle se savait l'objet? Avait-elle deviné au fond de cette sympathie que lui témoignait l'officier de marine des intentions d'une intimité plus grande? Elle ne pouvait supposer que le lieutenant, un gentilhomme portant l'épée au service de la France, pût songer à laisser s'égarer son cœur au point d'aimer une misérable fille condamnée à l'exil perpétuel. Alors, toute la recherche dont elle était l'objet de la part de l'officier ne devait, pensait-elle, que tendre à une liaison passagère et honteuse. Marianne ne pouvait douter qu'elle n'eût deviné juste, et cette conviction l'impressionna douloureusement. Elle avait donc résolu d'en finir avec une situation qui, elle le voyait bien, s'aggravait de jour en jour. Aussi, lorsqu'elle se trouva ce soir-là en présence de Charles Douvel, résolut-elle d'en finir. « Vous voulez, je m'en suis bien aperçue, dit-elle, que je vous conte l'histoire de ma vie. En quoi le récit des malheurs et des fautes d'une femme telle que moi pourrait-il vous intéresser? Ai-je besoin de vous dire que si je suis ici, dans un pénitencier, c'est que j'ai mérité une punition sévère? » Charles Douvel regardait avec compassion cet infortuné qu'il avait, pour ainsi dire, amené à cet aveu pénible. Il fit un geste pour protester de l'intérêt qu'il lui portait, mais elle poursuivit. Que je sois une voleuse ou pis encore, peut-être, cela importe peu. Et bien que, depuis, je me sois amèrement repentie, il n'en est pas moins vrai que je n'ai aucun droit à la grande bienveillance dont je suis l'objet de la part de Monseigneur, de Madame la Marquise et de Mademoiselle Yvonne. Je vous supplie donc, monsieur, de ne point insister. Laissez-moi taire ce que je suis et quelle faute j'ai commise. Et elle ajouta tristement. Il m'en coûte de vous parler ainsi que je le fais, car je ne dois pas oublier que c'est à vous que je suis redevable des faveurs que l'on m'a si généreusement accordées. C'est grâce à vous que j'ai été admise dans la maison de monsieur le gouverneur.
Non, mille fois non, répliqua vivement Charles Douvel. Ce que vous avez obtenu, vous ne le devez qu'à vous-même. Et si j'ai dans mon rapport sur la catastrophe du Glorieux fait ressortir tout ce que votre conduite avait eu de courageux et de dévoué, c'est un devoir que j'accomplissais.
Un devoir?
C'est un tribut de reconnaissance et d'admiration que je vous offrais au nom de tous ceux qui montaient mon malheureux navire. » L'officier s'animait au souvenir de la conduite énergique de la jeune fille qu'il avait reçue à son bord comme une détenue vulgaire et qui s'était révélée courageuse et forte, animée enfin des sentiments les plus nobles. « Et de même qu'au nom de tous, reprit-il, je vous ai rendu ce juste hommage, je veux vous exprimer ici les sentiments qui me sont personnels. Henriette, consentez-vous à m'entendre et acceptez l'offre de mon... de votre amitié ? Interrompit vivement Marianne. « De mon amitié, oui, oui, » reprit le marin, hésitant et confus. Qu'allait-il dire, en effet, lorsque la jeune fille l'avait interrompu ? Pouvait-il, lui, gentilhomme et officier de la marine royale, offrir son nom à une déportée, c'est-à-dire à une femme flétrie, déshonorée ? Est-ce son amour seulement qu'il allait lui demander de partager ? Voulait-il en un mot qu'elle devint sa femme ? Voulait-il faire d'elle sa maîtresse ? Il avait trop le respect de son nom pour que la première de ces deux hypothèses lui parût réalisable. Marianne lui inspirait déjà trop d'estime pour qu'il songeât à la seconde. Et comme il gardait le silence, Marianne ajouta : « Cette amitié que vous me faites l'honneur de m'offrir, je l'accepte avec joie, avec bonheur. Elle me relève à mes propres yeux et me fera supporter avec plus de courage les amertumes de l'exil. » Était-ce bien réellement à cette pensée, était-ce bien à cet espoir qu'obéissait Marianne lorsqu'elle acceptait ce pacte d'amitié purement fraternel? Non. La malheureuse femme ne pouvait plus se mentir à elle-même sur le genre d'affection qu'elle éprouvait pour le jeune officier. Son cœur, qu'elle avait cru à jamais tué par l'amour de Jacques Frochard, s'était réveillé accessible à des espérances et à des joies nouvelles. Ce fut pour elle comme un rajeunissement de l'âme avec toutes les émotions que fait éclore l'amour naissant, le véritable amour. Mais elle se dit que ce sentiment qu'elle avait inspiré ne s'adressait pas réellement à elle, mais à la pure et douce créature dont elle avait pris la place, que c'était Henriette Gérard qu'on aimait, parce que l'on connaissait sans doute l'innocente pureté de cette jeune fille. Et cette pensée fut un coup douloureux pour l'infortunée aux prises avec les violentes agitations de son cœur. Elle aimait, et plus que jamais, elle devait taire cet amour, repousser les avances de l'homme qui en était l'objet. Elle aimait, et il lui fallait imposer un cruel martyr à son cœur. La veille même, Marianne avait passé une nuit d'insomnie et de fièvre, appelant à son secours toutes les forces de son âme, et aussi le souvenir d'Henriette et de Louise, ces deux anges qui lui avaient montré la voie du repentir. Elle luttait contre sa conscience qui lui criait de ne pas bénéficier d'une erreur, de ne plus laisser croire à tous, et surtout à l'homme qui lui témoignait tant de sympathie, qu'elle était Henriette Gérard. Elle se désolait à la pensée que l'affection de l'officier s'égarait sur elle et que son devoir était de le détromper. Charles Douvel, à la fin de l'entretien qui venait d'avoir lieu, avait tenu la main à l'ouvrière. C'était, pensait-il, une façon de signer le traité d'amitié qu'il venait de conclure. Marianne baissa les yeux tout émue. Il ne prévoyait ni l'un ni l'autre, en ce moment, les complications qui allaient surgir dans leur relation affectueuse. Thank you.